Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Vous êtes sur Sporama. John Lyndon, je serai à la présentation de cette émission. Le programme, bien évidemment, reste le même. Comme tous les lundis soirs dans votre émission, les résultats, les dernières nouvelles, les analyses. On parlera notamment des Lions indomptables des moins de 17 ans qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de Jordanie 2016. Également au menu, les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Tchad a jeté l'éponge et écope d'une amende de 20 000 dollars et d'une suspension pour la CAN 2019. Dans cette émission de Sporama, nous vous proposons un entretien réalisé avec Jean Lambernand, journaliste et directeur au ministère de la Communication et ancien directeur général de la Fédération camerounaise de football. Nous rendrons bien évidemment un hommage à Juan Cruyff à la fin de Sporama. Bien sûr, vos commentaires, chers auditeurs, sont attendus sur la page Facebook de VO Afrique. Vos appels en direct aussi. Pour cela, composez le 001 202 619 31 40. Voilà, comme toujours et pour nous accompagner dans ce Sporama, nos correspondants et consultants habituels, Jules Valentin Goué, vous êtes à Libreville au Gabon. Bonjour Jules.
Bonjour John, bonjour à tous.
Alors comment vous allez?
Non, ça va très bien. On suit l'actualité du moment et on espère que les téléspectateurs et les auditeurs seront avec nous.
Voilà, nous allons au Sénégal pour retrouver là-bas Amédine Sy. Amédine, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Alors, vous allez bien comme Jules?
Oui, je vais très très bien John.
Voilà, donc restez avec nous. Nous allons avoir également dans cette émission probablement d'autres consultants. Non, la technique me fait signe qu'ils ne sont pas en ligne, mais on va poursuivre cette émission dans quelques instants. Restez avec nous et on se retrouve dans une seconde. Alors, commençons cette édition de Sporama par les Lions indomptables du Cameroun des moins de 17 ans qui se sont qualifiés ce week-end pour la Coupe du Monde de Jordanie 2016. Jules, votre réaction?
Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Le football camerounais manque de relève, c'est manifeste depuis quelques saisons. Et si les jeunes se remettent dans la danse et retrouvent la grande compétition, nul doute que parmi ces jeunes, on retrouvera les champions de demain.
Voilà. Donc, on a eu également, toujours avec le Cameroun, Cameroun-Afrique du Sud, qui ont fait 2-2, une prestation. Comment vous la jugez?
Oui, c'est un match qui a été, disons, assez surprenant, mais c'est ce qui arrive dans les oppositions de style. Les Camerounais, jusque-là, étaient habitués à rencontrer des adversaires qui jouent un peu dans leur corde. Les Mauritaniens et les Gambiens sont très physiques. C'est un jeu dans lequel excellent les Camerounais. Mais là, avec les Sud-Africains, ils ont trouvé des joueurs très techniques jouant au sol et surtout aimant prendre le ballon à leur compte. Et ça, quand on le fait sur le terrain de l'adversaire, ça l'énerve considérablement. Tout au long du match, l'équipe du Cameroun n'a fait que courir après le score.
Alors, Amédine, toi, qu'est-ce que tu penses de cette qualification des Lions à la Coupe du Monde Jordanie 2016?
C'est une très bonne chose pour le football camerounais parce qu'au moment où l'équipe senior, je vous parlais des Lions indomptables qui bafouent un peu le football, les Lionceaux sont en train quand même d'écrire l'une des plus belles pages du football dans la catégorie jeune de ce pays qui nous a valu beaucoup de satisfaction au niveau quand même international. C'est une bonne chose. Maintenant,
fait aux aînés quand même d'essayer de suivre la voie tracée par ces jeunes, parce que le Cameroun, si on en parle sur le plan international, nous a volé quand même beaucoup, beaucoup de satisfaction.
Alors, à propos du football camerounais, de ses récentes performances, des déboires, nous nous sommes entretenus avec Jean Lambernon, journaliste directeur au ministère de la Communication et ancien directeur général de la Fédération camerounaise de football. On va l'écouter tout à l'heure. On l'écoute.
Ce qui est paradoxal, c'est que c'est la sélection qui reçoit le moins de subventions de l'État, le moins d'aide de la Fédération camerounaise de football. Je veux parler de l'équipe féminine, cadette. C'est elle qui fait la plus belle des performances le week-end dernier. Parce que aller vaincre l'Égypte à domicile et sur le score que l'on sait 4-0, ce n'est pas donné. Par contre, la sélection A nous a laissé sur notre faim. En fait, elle nous a davantage plongé dans les doutes que nous nourrissions sur elle depuis pratiquement 2, 3, 4 années. Et nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge, tant on sait que de ce côté-là, on continue de plus naviguer dans les intrigues que dans la reconstruction qu'on affiche de façon officielle.
Il fut un temps, Jean Lambert, où le sport et le football en l'occurrence étaient cités en exemple par l'exécutif camerounais. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce qui a changé?
Pas la moindre ligne sur les Lions indomptables et le modèle qu'il représentait pour la jeunesse n'est encore fait dans les discours du chef de l'État. C'est dire si on est dans la déprime totale côté football. Et cela est la raison sans doute pour laquelle très peu de Camerounais continuent de fonder des espoirs sur cette sélection nationale et sur leur football en général. Parce que depuis leur dernière Coupe d'Afrique des Nations gagnée en 2002, plus jamais les Lions n'ont remporté le moindre titre sur le plan continental. Et leurs prestations à l'international sont de plus en plus désastreuses. Ils émargent plus au catalogue des faits divers que dans celui de ce qui a fait leur force de naguère. Une chose est sûre, c'est que même l'exécutif est excédé par les mauvais résultats des Lions indomptables et surtout l'ambiance qui règne au niveau de la tête du football camerounais en général. Rien, aucun plan n'est proposé pour sortir le football camerounais de l'ornière. Au contraire, les gens continuent de se battre pour des intérêts qui sont loin de ceux du football et des footballeurs. Et l'on comprend aisément aujourd'hui que la plupart des joueurs qui peuvent faire la force de cette équipe nationale préfèrent se consacrer à leur club en Europe plutôt que de venir s'essayer encore à l'amateurisme qui caractérise le football camerounais.
Alors, la Fédération camerounaise de football a un nouveau président. Quelle réflexion faites-vous du processus qui a conduit à son élection et des pouvoirs dont il dispose aujourd'hui ou pas?
Non, M. Tombi Aroko est le président que personne n'attendait. Parce que s'il a fallu normaliser la Fédération camerounaise de football, ça veut dire qu'il a fallu normaliser l'exécutif qui était en place à la maison du football de Tchinga, et dont fait partie M. Tombi Aroko, ancien secrétaire général de cette fédération. C'est eux, son équipe, qui a conduit à la normalisation imposée par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Et aujourd'hui, qu'un réformé se retrouve à la tête, un réformable se retrouve à la tête d'une structure que l'on dit réformée, est curieux. Et l'on a compris, d'ailleurs, ils ont dessiné leur plan dès le jour où ils ont été introduits, les chantres de la normalisation, le professeur Ouna et son équipe. On les a vus venir avec leurs grands sabots et on a compris tout de suite qu'ils militaient en faveur d'une fédération qui ne change pas, ni dans ses structures, ni dans ses hommes. Et la preuve aujourd'hui, c'est que Tombi Aroko, parvenu à la présidence de la fédération, reconduit les mêmes personnes qui ont été décriées par le monde du football hier encore. Et ce sont ceux-là même qui vont reprendre le navire du bateau. Et l'on sait qu'ils n'ont pas de capacité à pouvoir éviter les écueils. Ouais. Je l'espère, que le message de Libé avec le match nul difficilement arraché à l'Afrique du Sud va les amener à se remettre plus en question encore. Mais comment voulez-vous que le Cameroun puisse rejaillir, rebondir son football ne peut que décliner du moment que il y a eu une liste d'entraîneurs qui voulaient prendre la sélection nationale. Aucun de ceux-là n'a été retenu, mais on est allé nous sortir du chapeau belge un Hugo Broos, dont personne n'a entendu parler dans les milieux du football de ces 20 dernières années. Oh. Mais c'est celui-là qu'on est allé prendre pour diriger les Lions indomptables à l'ère de la reconstruction. Donc, rien de nouveau sous le soleil.
Voilà. Jean Lambert, non, vous avez vous-même été directeur général de la Fédération camerounaise de football. Et par la suite, vous avez écrit un livre, Desperate Football House, un brûlot sur l'institution que vous avez dirigée pendant 6 mois. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, est-ce que quelque chose a vraiment changé dans le fond?
Non, la seule satisfaction que je retire de l'exercice littéraire auquel je me suis livré, c'est qu'aujourd'hui, au moins, j'ai plus de paix de l'âme. Parce qu'au moment où le livre est sorti, on a dit que c'était... les Jérémiades d'un aigri. Personne n'a voulu lire le livre dans son fond. On a considéré que l'auteur, on a dit voilà, c'est parce qu'on l'a chassé de la maison du football qu'il se venge. Et aujourd'hui, quand je marche dans la rue, les gens viennent me dire, mais en réalité, tu avais vu venir avant tout le monde. Et la situation que je dénonce, qui est la navigation à vue, l'absence de plan véritable pour relancer notre football. Cette situation, nous la vivons encore aujourd'hui, parce qu'il y a les mêmes acteurs que nous voulions voir sortir du monde du football pour apporter du sang neuf. Ces mêmes acteurs sont les mêmes qui sont reconduits aujourd'hui. Et ce sont eux qui n'ont aucun intérêt à voir le football, le milieu du football changer. Parce que si le milieu du football change, se professionnalise, c'est eux qui seront dans. Qui auront la part congrue et qui seront très mal à l'aise dans ce nouvel édifice-là. Donc ils font tout pour que les intérêts soient préservés. Que le football ne décolle pas.
Tout à fait. Au-delà du Cameroun, la FIFA a également un nouveau président et l'institution FIFA en elle-même est au théâtre de nombreux scandales. Votre analyse?
Ah ça, moi j'ai dit longtemps avant tout le monde que la FIFA c'était une mafia et que les associations nationales en Afrique, en tout cas puisque c'est celle-là que je connaissais à l'époque, sont les excroissantes de la FIFA. On ne peut pas comprendre qu'une institution soit au-dessus des lois des associations nationales qu'elle a en son sein. Cela cachait quelque chose. Cela signifiait simplement que la FIFA contrôlait l'omerta et empêchait les États de regarder plus en profondeur dans ses agissements de tous les jours. Aujourd'hui, il est connu de tout le monde, Dieu merci, il n'est jamais trop tard, que la FIFA n'a fait que protéger des clans à sa solde parce que à l'intérieur, à la FECAFOOT que je connais particulièrement, c'était la mauvaise gestion financière, c'était le détournement quotidien des sommes allouées à la progression, au progrès du football, à la promotion du jeu, c'était le détournement à des fins personnelles de l'argent, des subventions que l'État accorde à la Fédération de camerounaise de football. Et ce sont autant d'agissements qui se sont perpétués parce que la FIFA protégeait ceux qui étaient les auteurs de ces actes-là.
Jean Lambert, non, journaliste et directeur au ministère de la Communication et ancien directeur général de la Fédération camerounaise de football. Jules, un mot sur ce que vous venez d'entendre?
Non, mais bien sûr, nous sommes tous d'accord. On a tous fait cette analyse et donc cette ambiance de mafia qui existe dans le football camerounais n'est plus à démontrer. Surtout quand les acteurs sont les mêmes. Je crois que nous croisons tous les droits et on se dit que ce mauvais vent va passer.
Voilà.
Le premier raccourci, c'est effectivement d'évoquer la victoire, c'est le plus important. On a préparé ce match, on a eu deux visages avec une première mi-temps où on a quand même fait beaucoup d'efforts, mais mal organisé, on n'était pas dans le tempo du match, seconde mi-temps un peu plus présent, et il a fallu arriver à conclure sur un coup de pied arrêté parce qu'on a manqué un petit peu de précision sur toutes les possibilités offensives dans la justesse pour pouvoir concrétiser sur action de jeu. J'ai pas déclaré que c'était un match de premier niveau. Nous avons eu de l'à peu près dans ce match-là. C'est ce que je constate aussi facilement que vous. Il y a eu beaucoup d'approximations et qui nous a pas permis effectivement de pouvoir, dans certaines situations et circonstances, pouvoir finaliser notre jeu. Et on se connaît, l'adversaire nous connaît, on connaît l'adversaire. Nous allons travailler comme il faut et pour essayer effectivement. Notre premier objectif, c'est certainement de faire une performance sur le match retour. Si on savait à l'avance comment un match se déroule, ça serait agréable pour tout le monde. On ne sait pas. Nous, on va bien le préparer dans les meilleures conditions.
Voilà, c'était Alain Giresse qui réagissait donc après le match Mali-Guinée-Équatoriale. Le Mali l'a emporté 1-0. Le match comptait pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Un match qui s'est joué samedi dernier. Alors, Jules, un autre sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est le Tchad. Le Tchad qui a déclaré forfait pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que ce forfait-là signifie?
Oui, les officiels tchadiens apparemment ont fait avancer et disons que des raisons financières pour expliquer leur démission et qu'ils avaient un ras-le-bol avec des joueurs qui exigeaient des primes alors que les résultats ne suivent pas et que les moyens financiers sont limités. Je crois que là, on a choisi la solution forte. Mais le comble, c'est que cela aura des grandes répercussions sportives. Tout de suite, le Nigeria se voit au pied du mur face à l'Égypte. Et le Nigeria qui se déplace en Égypte doit automatiquement gagner s'il veut rester en vie dans cette poule.
Voilà, à Médine, la CAF a également suspendu le Tchad pour la Coupe, la CAN 2019, et puis le Tchad devrait payer une amende de 20 000 dollars.
Oui, je pense que c'est tout à fait normal, l'attitude de la CAF, parce que ce que le Tchad a fait, c'est pas du tout normal, c'est faussé carrément le jeu, parce que le Tchad est logé dans le groupe G en compagnie de l'Égypte, du Nigeria et de la Tanzanie. Après trois journées, le Tchad jette l'éponge, alors que le Tchad avait déjà perdu à domicile face à l'Égypte sur le score de 5-1. Le Tchad s'était incliné face au Nigeria sur le score de 2-0. Le Tchad s'était incliné face à la Tanzanie par 1-0. Donc, toutes ces équipes qui avaient engrangé des points, maintenant, ils vont perdre tout ça. Donc, ça fausse carrément le jeu. Quand on n'est pas en mesure de prendre part à une compétition, mais il ne faut pas s'engager. Parce que ce que le Tchad vient de faire, c'est inadmissible pour un pays qui se respecte. Quand même, ils ont chamboulé tout. Maintenant, si on regarde la composition du groupe, c'est l'Égypte, c'est la Tanzanie et le Nigeria, c'est trois équipes. Donc, un seul pays va sortir, il n'y aura pas de meilleur deuxième, ça pose problème. Maintenant, le Nigeria qui avait battu le Tchad se retrouve avec 0 point, 2 points, deux points. La Tanzanie, 1 point. L'Égypte profite un peu de la situation et mène le bal avec 4 points.
Voilà.
Donc, il faut revoir en Afrique, il faut revoir quand même les choses. Et je voudrais un peu me prononcer également sur l'histoire un peu du Cameroun.
Oui, allez-y.
Et j'ai écouté religieusement Jean Labert. Il a raison parce que moi, j'ai eu la chance quand même d'assister à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football parce que ça m'a trouvé à Yaoundé. Je devais couvrir quand même l'afro-basket féminin et j'ai assisté. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai assisté à une Assemblée générale sous haute tension. Il y avait plus de militaires que des membres du sport, quoi.
Tout à fait.
C'était inimaginable. Je me suis dit, même le président qui a été élu, il avait tellement de garde-corps, moi, je me suis dit, même le président du Sénégal, Macky Sall, ne se déplace pas avec autant de garde-corps.
Voilà.
Ça m'a surpris. Mais concernant le résultat sportif, il n'y a pas péril à la demeure. Le Cameroun est leader du groupe M avec 7 points plus 2, suivi de la Mauritanie 6 points plus 2 et de l'Afrique du Sud. Le Cameroun a déjà remporté 2 matchs.
Voilà.
Cette face à de petits poussées, Mauritanie et Gambie. Ah. Ils ont été quand même contrés au match nul partout par l'Afrique du Sud.
Amédine,
de l'entraîneur Igo. Ouais, ah. Ça pose problème parce que
Amédine, on va revenir sur toi tout à l'heure, le temps d'accueillir Salif qui nous a rejoint. Salif, bonsoir. Est-ce que Salif est en ligne?
Oui, bonsoir. Je suis bien en ligne. Bonsoir et bienvenue.
Voilà, vous nous rejoignez. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme actualité de votre côté? Voilà, quelques soucis de communication. Oui, Salif, on vous écoute. Allez-y.
Oui, justement, donc, l'actualité a été dominée donc, ce week-end à Ouagadougou par ce match des éliminatoires de la CAN 2017 entre les étalons du Burkina et les CAN du Ghana. Un match remporté d'ailleurs par les Burkinabés, c'est la plus petite des marques 1-0. Plus de Jonathan, qui ne croit pas qu'il joue aux Émirats Arabes Unis à la 70e minute de jeu sur un pénalty. C'est un match qui a laissé le public sportif burkinabé en surface parce que la production d'ensemble du jeu de la formation burkinabé n'a pas été à la hauteur des attentes. Avec le nouvel entraîneur qui a fait donc ce retour, puisque c'est Paulo Blatty qui avait en 2008 entraîné les étalons du Burkina, passé jusqu'à la CAN 2012 à Malabo où il avait par la suite été tenu de ses fonctions par l'ancienne fédération. Et après, il y a eu donc pour tout qui a réussi à faire une bonne prestation à la CAN du Mexique en Afrique du Sud. Mais en Guinée équatoriale en 2015, ça n'a pas été du tout de bons résultats. Donc, lui, il est parti, et Paulo Blatty est revenu. On s'attendait quand même à voir une équipe au Burkina Faso qui a retrouvé donc son âme véritable. Mais le samedi, au stade du 4 août de Ouagadougou, on a vu que l'équipe burkinabé a participé. On a essayé de renforcer donc les étalons par de nouvelles têtes, notamment avec Aboubakar Saré qui joue au Portugal. Il y a également donc Bertrand Traoré de Chelsea qui est arrivé, mais qui n'a pas donné beaucoup de force à la formation burkinabé. Par contre, les CAN peut se réjouir hein, parce que le score de 2-0 ici à Ouagadougou. Leur mec, quand même, à la prime, si actuellement, ils ont perdu un temps forte, donc, la première place du classement dans le groupe B. Mais si on fait le match de demain à l'Ouganda en retour, sera quand même très palpitant et les Ougandais sont très attentifs, ils ne possèdent pas de contre, ils sont. Tout en mouvement, ça peut compliquer la tâche aux étalons de Burkina.
Voilà, merci Salif. On va parler toujours football et le Bénin a largement battu le Soudan du Sud 4-1. Le résumé du match avec Élisée Ounkpatine à Cotonou.
Poussé par son public, le Bénin s'est offert le Soudan du Sud grâce à sa ligne offensive et le doublé de son capitaine Stéphane Sesseyon. Les écureuils étaient déjà allés gagner jeudi à Djouba. Du coup, le bilan de cette double confrontation contre cette sélection soudanaise est idéal pour le sélectionneur Ouma Chomogo, particulièrement satisfait de la victoire de Cotonou.
Je suis vraiment fier de ce que mon équipe a produit aujourd'hui. J'ai eu vraiment un grand match. J'ai mis une tactique en place. Il y a eu beaucoup de choses dont j'étais sûr et aujourd'hui je suis reconforté. Je pense que le bilan est plus que positif. Notre programme c'était 6 points ou rien, donc je pense qu'on l'atteint aujourd'hui. Le plus dur reste à venir, mais je ne m'inquiète pas parce que j'ai un bon groupe, on a le même objectif et je pense qu'on peut aller plus loin.
Les écureuils s'emparent donc de la première place de ce groupe avec un point de plus que le Mali qui joue ce lundi à Malabo contre la Guinée équatoriale. Élisée Ounkpatine, Cotonou, VOA Afrique.
Voilà, on a quelques réactions au téléphone. Bakary, bonsoir. Bakary Keita, bonsoir.
Ouais. Je crois que le Mali vient de reprendre sa place de leadership en battant les Équato-Guinéens sur la marque d'un but à zéro, but marqué à la 89e minute par Yata Baré.
Tout à fait.
Donc bravo aux Aigles qui ont pris 6 sur 6 points face aux Alans de la Guinée équatoriale. Également, chapeau à cette belle équipe équato-guinéenne qui nous a tenu la dragée haute. Il n'y a plus de petites poussées encore en Afrique. Hein.
Voilà.
Cela laisse voir que les grandes équipes comme la
Merci.
Le Cameroun, le Ghana, l'Algérie, ils risquent de perdre leur place de suprématie face aux outsiders comme le Mali,
voilà.
Le Sénégal.
Bakary, merci Bakary. Désolé, on est pris par le temps. On va prendre Maurice Balouchi. Boris, bonsoir. Maurice est là ou pas? Voilà, on va poursuivre cette émission et on va parler un peu de cet hommage hein, à des Pays-Bas rendu vendredi à, au légendaire Johan Cruyff, décédé à l'âge de 68 ans. Je vais demander à Jules d'abord et puis à Medine de dire un mot à propos de ce monument du football.
Une véritable légende du football. Je ne m'attarderai pas tellement sur ses qualités techniques individuelles. Ce joueur que j'ai vu personnellement jouer en live, mais c'est surtout ce qu'il a apporté sur le plan tactique qui est le plus édifiant. Et il a inventé pratiquement le rôle du attaquant moderne qui n'a pas de poste précis, d'où son numéro 9, 14, et de son numéro 14 qui était différent du 10 de Pelé ou du 9 des avant-centres.
Voilà.
Et en même temps, il a été le relais du fameux football total du Roumain Stéphane Kovacs.
Merci. Merci Jules. Amédine, un mot sur Johan.
Johan Cruyff, c'est tout simplement le prophète païen du football des années 70. C'était un footballeur européen, mais le plus africain, parce que Johan aimait les joueurs qui sont sortis de la rue, pas des joueurs robots comme on en forme dans les centres de formation. Mais Johan, je voudrais te signaler que pour le compte du groupe que le Sénégal est leader après sa victoire sur le Niger, c'était samedi.
Voilà.
Le Sénégal donc se déplace demain à Niamey pour affronter le Niger. Le Sénégal.
Merci à Medine. Salif, en une seconde. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. John Lyndon était à la présentation, Joselle Morissin assurait la production et Fred était aussi là. Merci d'avoir suivi et au revoir.